Ça s'appelle Au détour d'une rencontre. C'est une émission qui vous propose de partir à la rencontre d'une personne, d'un projet, d'un métier, d'un engagement, d'une réalité de vie. C'est une émission qui parle des autres, de soi, qui questionne ce que nous sommes, ce qui est, ce que nous faisons, dans quel but. Quasiment la fin de l'été, on est à Quimper, je suis avec Michel. Est-ce que tu peux te présenter ?
Donc je suis Michel, effectivement, et je suis comédienne, chanteuse. J'ai mené pas mal de projets artistiques avec des habitants du territoire aussi tout au long de ma vie artistique. Et je suis nouvellement retraitée, donc j'ai du temps qui s'annonce, là, du temps pour moi, plus personnel. Je suis devenue comédienne, enfin je suis montée sur une scène de théâtre plus exactement, j'ai commencé à faire du théâtre toute jeune fille, jeune femme, parce que j'étais extrêmement timide et j'avais beaucoup de mal à aller vers les autres, j'étais terrifiée par les gens en fait. Et donc j'ai commencé à aller sur une scène de théâtre pour approcher les autres et pour m'approcher moi-même à travers des personnages. Comme des masques que l'on met, comme ça on se protège un peu quand même, parce que les autres ça continue à faire peur un peu. Et puis je me suis rendu compte que la scène c'était comme une maison, je me suis sentie bien tout de suite, dans ce rapport à l'autre justement, qui n'est plus lui-même, qui est encore lui-même, qui essaie d'être quelqu'un d'autre, qui s'agrandit, qui se dilate, et moi aussi j'avais cette impression-là de m'agrandir, de me cacher, et je me suis sentie comme à la maison. Donc assez vite, alors que je faisais des études de lettres, l'envie de, je sais pas, prof de lettres, je sais pas quoi, ça s'est vraiment dissipé assez rapidement, ou de faire du journalisme, quand j'ai vraiment fait quelques répétitions, quand j'ai joué... Enfin, surtout quand j'ai commencé à jouer une ou deux fois comme ça dans des spectacles en amateur, je me suis dit mais si j'allais vers ça. Je vais au nom du nom des vents, j'y vais au son de l'avant, j'y vais, j'en viens manger, dormir. Alors la toute première fois, c'est vraiment à 15 ans quand je suis quand j'arrive en seconde, en fait, le fait de changer d'école, hein, parce que je passe du collège au lycée, donc de tenter des nouvelles choses sans que le regard des copains habituels soit là, oh, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire du théâtre? Ben non, c'était pas ça. Donc je pouvais me permettre d'y aller parce que j'allais, c'était nouveau, il y avait une nouveauté, un nouveau territoire. Et donc ça a commencé là, je me suis sentie bien. Ça commençait avec les nouveaux du groupe, exclusivement au départ. Et puis ceux qui étaient déjà aguerris, qui en avaient fait plusieurs années, sont arrivés au bout de deux ou trois répétitions. Ils sont arrivés très à l'aise, flamboyants, sur deux. Et là, moi, j'ai été comme une petite souris de nouveau qui se rétractait là dans son trou. Donc j'ai dit, ah non, c'est pas le moment, c'est trop tôt. Il a vraiment fallu encore que je quitte le lycée, que je change de nouveau de territoire, que j'arrive à la fac, que je change de groupe de groupe relationnel pour de nouveau retenter le coup. Et donc là, c'est à l'université, au Centre Dramatique Universitaire à Brest. Et là, ça l'a fait. Et là, j'ai dit ouais, vraiment, là, c'était le bon moment. Je pouvais m'affranchir un peu plus, quoi, de faire face à... il y en a qui sont plus à l'aise que moi, c'est pas grave, tu vas cheminer là-dedans, j'avais un peu plus de maturité, on va dire. Et puis après, c'est un concours de circonstances. En fait, il s'est trouvé qu'au Centre Dramatique Universitaire, le CDU, donc où j'ai fait vraiment mes premiers pas sur scène, c'était Bernard Loti du Théâtre de l'Instant, le metteur en scène, qui faisait les mises en scène du CDU. Donc, pendant 3 ans à peu près, ça a dû être comme ça. Et puis un jour, il nous dit « Oh, j'aurais besoin de quelques-unes d'entre vous pour des petits rôles dans « Les Archanges ne jouent pas aux bières électriques » de Dario Fo, que je vais monter avec le Théâtre de l'Instant. » Et j'y suis allée. On était 3 ou 4 à y être allés. Et là, ce que j'ai découvert, c'était la vie de tournée, parce qu'on a tourné. Donc c'était monter le décor, jouer, démonter, rester discuter avec les gens après le spectacle. Et puis tous les soirs, ça se renouvelait. Tous les soirs, on changeait de salle parce que c'était sur Brest et on changeait de salle tous les soirs. Et puis surtout, il y a eu un truc merveilleux, mais ça, c'est bon, c'est parce que j'étais jeune et que je trouvais ça merveilleux. C'était d'aller au restaurant après avoir joué. Ça peut sembler complètement enfantin, mais je me suis dit, mais c'est ça la vie d'artiste, mais c'est trop bien. Alors, je veux en faire mon métier. Et donc, j'en ai parlé à Bernard, mais pas en parlant du restaurant, bien sûr, parce qu'il m'aurait dit, mais ça va pas, non. Et il m'a dit, si tu veux faire ce métier, bah, va faire le conservatoire d'abord, quoi. Ça suffit pas, voilà, ce qu'on fait là, va faire le conservatoire à Rennes. Et donc, je suis allée à Rennes faire le conservatoire. Et puis, là, j'ai appris un peu plus les fondamentaux. On avait plein d'intervenants extérieurs sur de la danse, du mime, du clown, du chant, voilà. Et je me suis vraiment construit là. J'ai cheminé artistiquement à partir de ce moment-là un peu plus profondément.
Je vais au nom du nom des vents. J'y vais au son de l'avant. J'y vais, j'en viens manger, dormir.
Comment après on construit son identité en tant qu'artiste? Toi, tu es comédienne, mais tu es chanteuse aussi.
Ça s'est fait un peu doucement comme ça. Je me voulais comédienne. À partir du moment où je vais au conservatoire, je me pensais plus comédienne. Et puis j'avais un petit truc dans ma tête depuis que j'étais petite fille, où dans ma famille, l'accès à la culture n'était pas forcément présent, mais on avait quelques disques quand même, comme ça, qu'on passait sur l'électrophone. Et en particulier, il y avait un disque de La Calas. Et j'étais complètement bouleversée par sa voix, comme plein de gens. Et je me revois petite fille dans le garage à vélo, parce que mon père était un stit, donc il y avait un garage à vélo à l'école où on habitait, pour les élèves, ce garage à vélo. Et je me revois dans des moments comme ça où j'avais envie d'être seule sur mon vélo, face au mur et pédaler dans le vide et de me dire, un jour, je serai chanteuse comme La Calas. Et puis c'était une petite voix comme ça qui était restée en moi. Donc je deviens comédienne, je sors du conservatoire où on nous apprend à postuler pour des grands rôles. On me disait, toi, de toute façon, t'as pas un physique de jeune première, donc perds pas ton temps à aller faire des auditions de jeune première, mais va plutôt pour Lady Macbeth, Phèdre de Racine, des choses comme ça, des personnages soit un peu forts ou soit des personnages durs. Et puis très vite, dans la réalité du métier, je me suis rendu compte que en habitant Rennes, en tout cas, que ça allait pas du tout se passer comme on nous avait appris au conservatoire. Je me suis rendu compte surtout que j'avais pas forcément envie d'être quelqu'un de célèbre. Je courais pas après une notoriété. Et j'avais plus envie de projets personnels, des choses qui me tenaient à cœur, qui me venaient de l'intérieur, qui m'animaient depuis l'intérieur. Et puis, comme par exemple des chansons de Pierre Macorlan, que personne ne connaît plus, mais qui sont des chansons magnifiques, qui sont des portraits de femmes absolument extraordinaires à chaque chanson. Et puis ça s'est un peu passé comme ça, quoi. J'ai plutôt fait des choses qui me tenaient à cœur. Et après, au fil des rencontres, je me suis aussi rendu compte que j'avais plus envie d'une vie de compagnie, d'être dans une compagnie, de savoir tout faire dans une compagnie, autant faire les costumes que peindre des décors, que participer à l'écriture, participer à la mise en scène. Et j'ai plutôt cheminé comme ça, en fait, en apprenant un peu tout sur le tas. Et le chant a pris une place aussi importante dans ma vie, dans ma carrière, parce que j'aimais chanter, parce que j'avais aussi cette petite voix là depuis l'enfance qui me disait tatata, voilà, t'as envie de chanter comme La Calas. Et ça s'est fait grâce à j'ai une quarantaine d'années, grâce à des cours de chant que j'avais repris et une prof de chant anglaise qui m'avait dit, Michel, ne laisse pas tomber, t'envoie les lyrics. Et je disais, ouais, bon, t'es mignonne, mais à 40 ans, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ma voix lyrique? C'est trop tard. Non, 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 ne laisse pas tomber ton voix lyrique. Et puis, cette petite phrase de ma prof de chant, en la laissant cheminer, je me suis dit, si j'allais chanter en voix lyrique dans la rue, alors comment faire dans la rue? Peut-être avec un orgue de Barbarie. Et ça, c'est la rencontre avec Loïc, qui avait un orgue de Barbarie, avec qui après, notre première rencontre où je vais lui parler de ça, Et puis, en fait, on a cheminé ensemble pendant 20 ans. On a créé plein de spectacles ensemble. Et ça a été super, quoi. Parce que je voyais bien dans les yeux du public, il y avait ceux qui disaient « Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette voix ?» Et puis ceux qui disaient « Waouh, mais je ne m'attendais pas à ça. Mais ça me touche, cette voix-là. » Ce type de voix, effectivement, peut rebuter les gens. Ou au contraire... ouvrir voilà, comme des brèches, quoi, parce que c'est inattendu sur l'espace public. Alors, par exemple, je chantais un air de Mozart. Alors, est-ce que je vais me souvenir des paroles? Bon, je tente. Hein. Il est 10h du matin, je ne me suis pas échauffé la voix. Voyez que ça pète, que trouve l'amour dans le verre. Si on aurait le cœur, on aurait vérité. Si on aurait le cœur, etc. etc. Voilà.
Le travail d'écriture, il est lié aussi à une volonté de poser des questions sociales, enfin, quel est ton engagement, enfin, ce qui a au fond de toi et qui a animé justement ces créations.
Oui, c'est vrai que je me souviens que c'est pendant la guerre de l'Irak, début des années 90, on joue des spectacles de Molière, et là je me dis, c'est marrant, c'est pas en adéquation avec le monde d'aujourd'hui, avec la période qu'on traverse. Et là, déjà, je me dis, j'aimerais quand même jouer dans des spectacles qui sont plus en écho avec ce qui se passe dans le monde. Et c'est vrai qu'après, dans les années, donc début des années 2000, on monte ce spectacle sur le Front populaire. Et là, ça va vraiment nous accompagner avec Loïc de créer des spectacles qui sont un peu en phase quand même avec notre époque. Donc le spectacle sur le Front populaire, ça revisite quand même les droits sociaux, enfin même les acquis sociaux, parce que c'était des acquis sociaux à cette époque-là, et comment il est important d'être vigilant pour les garder. Et puis après, on va monter aussi un spectacle sur qui se passe en 49, sur l'arrivée de la télévision dans un bistrot. Mais en fait, derrière ça, c'est l'arrivée de la télévision dans nos maisons, et puis l'arrivée aussi des écrans, voilà, comment les écrans sont totalement présents et dans nos vies d'aujourd'hui, et comment est-ce qu'on pourrait s'en passer, quoi.
Sur la place chauffée au soleil, une fille s'est mise à danser, elle tourne toujours pareil. Aux danseuses d'antiquité, sur la ville il fait trop chaud. Oh, mes femmes sont assoupies et regardent par les carreaux cette fille qui danse à midi. Oh, si c'est un jour apparaît une flamme à nos yeux, à l'église où j'allais. Appelez le bon Dieu, l'amoureux, l'appelle l'amour, le mendiant, la charité, le soleil, la paix.
Cette rencontre avec Loïc, autour de l'orgue de Barbarie et de la chanson, on s'est aussi rendu compte que on avait d'autres territoires communs qui étaient par exemple l'attention aux personnes âgées et aux histoires qu'ils livrent. Moi, j'adore les gens qui n'ont l'air de rien. Et que tout d'un coup, quand on commence à discuter avec eux, c'est un peu, vous savez, comme une pelote de laine, on tire le fil et puis c'est merveilleux tout ce que les gens ont raconté, quoi. Et alors, moi, j'adore ça. Et Loïc aussi. Et le meilleur endroit pour tirer comme ça des fils de la pelote de laine, c'est d'aller justement en résidence de personnes âgées. Parce que c'est des gens qui sont effectivement très âgés, donc ils ont une somme d'expérience. Et c'est incroyable, quoi. Donc on avait fait comme ça tout un cheminement en maison de retraite à partir d'objets. Alors Loïc est grand collectionneur d'objets Et il avait des objets, en plus il adore les objets techniques aussi de la vie quotidienne. Et donc on les mettait sur des tables et puis on les montrait aux personnes âgées qui passaient de l'un à l'autre et ils nous racontaient des tas d'histoires comme ça. À un moment donné, les choses sont venues à nous en fait. C'était en 2007, l'EHPAD de Kernisi, ici à Quimper, qui nous dit ben voilà, je veux monter un spectacle, me dit l'animatrice, avec 9 résidents de l'EHPAD et 9 jeunes du lycée d'à côté, du lycée du Paraclet. Et donc voilà, ils ont construit des questionnaires, les jeunes, on a ça comme matériaux, est-ce que ça vous dit de prendre la relève? Et moi, je tournais depuis un moment aussi autour de l'idée d'écrire, et je n'osais pas y aller. Donc Loïc me dit, oh là là, ça c'est un projet pour toi, ça va te permettre de te lancer dans l'écriture. Donc j'y suis allée avec les pétoches, vraiment. Donc je me suis dit, oh là là, quel va être le fil conducteur entre ces 9 personnes qui ont plus de 80 ans et ces 9 jeunes qui ont 20 ans? Ah, mais ils ont 20 ans cette année. Ah, mais tiens, et si c'était ça le fil, avoir 20 ans, avoir et revoir ces 20 ans. Donc la question qu'on leur a posée, c'est, avoir 20 ans aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait? Et comment vous vous projetez? Et vous, où vous étiez le jour de vos 20 ans? Et là, c'était des témoignages extraordinaires des personnes âgées, parce qu'il y en avait une qui c'était le jour de ses fiançailles, qui nous a décrit un beau repas de fiançailles dans une prairie avec une nappe blanche, des fleurs partout. Et il y avait une petite scène avec un bal. Elle nous a dit que c'était le plus beau jour de sa vie, plus beau que le jour de son mariage. Il y avait un monsieur qui a dit, ben moi, le jour de mes 20 ans, c'est le jour de la déclaration de guerre en 39, le jour de la mobilisation, pardon. Et je suis partie à la guerre. Je venais de finir mon service militaire. Je n'ai pas pu retourner chez mes parents. J'ai été mobilisée immédiatement et j'ai traversé Quimper depuis la caserne qui n'existe plus, là, ici, au centre-ville. Je suis repassée par la rue Jean Jaurès où habitaient mes parents. J'ai levé la tête en me disant peut-être que mes parents seront à la fenêtre, ils n'y étaient pas. Et on est allé à la gare et j'ai pris le train et je me suis retrouvée sur le front. Et puis chez les jeunes, il y avait beaucoup d'incertitudes. Ils voulaient faire des métiers en lien avec les autres aussi, apporter de l'aide aux autres, mais plus en devenant militaire ou gendarme ou policier, ce qui avait créé d'ailleurs beaucoup de remous chez les personnes âgées qui disaient « Mais comment ça se fait que vous vouliez faire ces métiers-là? De notre temps, quand on voulait aider les autres, on était infirmière, un médecin, et vous, vous voulez être flic ?» Mais ça, enfin, c'était étrange. Alors les jeunes se sont rétractés un peu. Alors il a fallu apaiser le tout. Je dis « Bah oui, mais les temps ont changé. » Et puis... C'est vrai que les flics, ce n'est pas forcément que de la répression, les militaires non plus. C'est aussi amener son aide dans des pays comme l'Afrique. Voilà. Bon, ça s'est calmé un peu. Mais voilà, ça a été le premier spectacle que j'ai écrit et qui était une étape importante pour moi de réussir à écrire des textes pour les autres, à les amener sur scène. Mais vous voyez, on avait toujours ce côté éducation populaire, de toute façon, qui nous a animés voilà, tout au long de ces 20 années de spectacle qu'on a animés ensemble. Quoi. Et après, on a animé, qu'est-ce qu'on a fait encore? On a fait aussi des choses sur la démolition de la galerie marchande de Pénars. Là, c'est à la demande du contrat social. On a accompagné la démolition parce qu'il y avait un vrai traumatisme des habitants de voir ce lieu social, ce lieu de rencontre disparaître. Donc on a fait un café éphémère, on a fait un bal, on a collecté aussi tous les témoignages autour de la galerie, les habitudes de vie des gens dans la galerie marchande. Qu'est-ce qu'on a fait encore dans cette galerie? Il y avait une danseuse aussi qui a été là, Hélène Dousseau. On a fait un premier défilé de mode en lien avec la galerie marchande, mis en scène là par Hélène, justement. Et puis, on a continué les défilés de mode dans le quartier. On en a fait 3 ou 4 ensuite, Ça, c'était incroyable aussi comme projet, quoi. Des gens qui avaient une image, une mauvaise image d'elle-même, de lui-même, et qui était magnifique, quoi, tout simplement magnifique, parce que on les avait fait bien sûr travailler sur la confiance en soi, sur le rapport au corps, le rapport à être regardé, à marcher sur un tapis rouge, qu'est-ce que ça fait, voilà, comment de l'intérieur on chemine vers je me sens beau, je me sens belle, je suis fière de moi, j'ai envie de me montrer beau, belle. Et puis après, le vêtement ne faisait que magnifier, c'était le petit plus. Le vêtement, la coiffure, le maquillage n'étaient que des plus, en fait. C'était des moments incroyables, quoi. Ouais. Donc, ouais, c'est à la fois, c'est de l'artistique, hein, puis on frôle l'éducation populaire. Donc, on a mené tout ça sur le quartier, ouais. De 2010 à 2023.
Et donc, aujourd'hui, ça n'existe plus, cette compagnie ?
Alors, on a mis un an à peu près, toute l'année 2023, là, parce que, bon, là, je parle des projets dans le quartier, mais il y en a eu d'autres, hein. On a travaillé avec les paralysés de France, on a travaillé avec un foyer aussi de personnes en situation de handicap. Donc, c'était des cheminements comme ça, avec des groupes sur du long terme, et il fallait bien, avec l'idée qu'on allait être en retraite, et puis on avait vraiment envie de... Parce qu'on commençait à fatiguer un peu. C'est pas rien de mener des groupes avec minimum 20 personnes, mais c'était des fois jusqu'à 80 personnes. Donc on a mis un an à préparer à la fois les gens qu'on allait arrêter de travailler avec eux, mais nous aussi intérieurement, à dire au revoir à ces groupes de personnes et à dire au revoir au projet. C'est des rencontres bouleversantes, hein, que de travailler avec des personnes en situation de handicap, ou des personnes qui sont dans des situations précaires, dans le quartier, fragiles, des personnes qui viennent d'ailleurs. Ben voilà, tout ça, c'est pas rien, quoi, tous ces récits de vie qu'on a dans la tête. Donc, c'est voilà, comment on s'en détache, comment dire au revoir à tous ces gens.
Sur la place chauffée au soleil, fille s'est mise à danser, elle tourne toujours pareil aux danseuses d'antiquité.
Alors maintenant, bah c'est vrai qu'il ne s'agit pas de rien faire, parce que je n'ai pas forcément envie de tout arrêter. Mais en tout cas, avec Loïc, il y a l'orgue de Barbarie, on adore chanter tous les deux. Donc on va continuer à chanter, on a différents répertoires de chansons. Et puis... Et puis moi aussi, je tourne autour de toute façon d'une écriture plus personnelle depuis longtemps, parce que c'est vrai que je suis rentrée dans l'écriture, j'y suis allée, mais c'était aussi pour des projets de spectacle, où j'ai plus écrit pour les autres. Et là maintenant, j'ai envie d'écrire, de livrer plus mes projets personnels. Donc je me suis approchée de mon rêve de petite fille de chanter comme La Calas, mais j'avais un deuxième rêve, c'était d'écrire des choses plus personnelles. Donc voilà, je m'y colle là, tout doucement, je suis rentrée aussi en écriture. Moi, je suis encore quelqu'un qui a peur tout le temps quand je fais des nouvelles choses. J'ai toujours ce doute là. La confiance en moi est assez limitée, mais en même temps, en tout cas, ça s'est passé comme ça par le passé. Quand les projets venaient à moi, tout d'un coup, c'est parce que le projet qui vient à moi, j'ai une idée et cette idée prend le dessus. C'est ça qui m'anime et j'arrive en fait par l'idée à dépasser ma peur. Et puis, il y a certainement une part d'inconscience totale de je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Et je crois que là, dans l'écriture, ça va être aussi comme ça, quoi. Là, je suis en train de dépasser aussi la crainte que j'ai de est-ce que mon écriture est de qualité ou pas. J'ai besoin de me coltiner ce chantier d'écriture, de ce face-à-face avec moi et la page blanche, quoi. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionne.
Chez la jolie Rosette au café du canal, sur le tronc du tilleul qui ombrageait le bal, on pouvait lire sous deux feuilles entrelacées, ici on peut apporter ses baisers. Moi, mes baisers, je les avais perdus, et je croyais déjà avoir tout embrassé, mais je ne savais pas que tu étais venue. Et que ta bouche neuve en était tapissée. La chance jusqu'ici ne m'avait pas souri. Sur mon berceau, les fées ne se penchaient pas beaucoup. Et chaque fois que je tombais dans un carré d'ortie, il y avait une guêpe pour me piquer dans le cou. Pourtant, ma chance, aujourd'hui, elle est là. Sous la tonnelle.
Et tout à l'heure, tu parlais des portraits de femmes chantés par
Pierre McCorland. Ah, Pierre McCorland. Alors, c'est, ce qui m'intéressait là, quand j'ai rencontré ces chansons-là, c'est que c'est à chaque fois, c'est un portrait de femme. Souvent, c'est un prénom, d'ailleurs, c'est Nelly, c'est de Marie-Dominique, Katharina de Chiaia. Et donc, c'est la femme qui parle à la première personne. Donc, c'était très agréable à défendre aussi pour une comédienne. Parce que c'est des chansons comme des paysages, comme des décors à chaque fois. McCorland, c'est ça, il a cette spécificité-là. Il place ses personnages dans ses romans, c'est pareil, hein, dans un décor, et il voit comment le décor va animer la personne, et aussi comment le danger, voire la mort qui rôde, agit sur ce personnage-là. Donc, par exemple, il va placer Margaret, elle est au Havre, et puis elle voit ces bateaux là qui partent vers Tampico. Alors, Tampico, je crois que c'est en Amérique latine, et c'est l'odeur du pétrole, parce que y a voilà, l'odeur du pétrole, à la fois l'odeur de la richesse, mais c'est aussi c'est l'odeur du danger. Ces femmes-là, dans quasiment toutes les chansons de Pierre McCorland, ces femmes sont dans des ports, donc il y a le lien aux matelots, c'est souvent des prostituées, il y a ce rapport à le matelot, bah, c'est celui qui voyage, elle reste à terre, et y a des amours qui se créent, mais l'homme s'en va, donc elle le regrette, et reviendra-t-il, et voilà. Et c'est des beaux, ouais, c'est des beaux portraits de femmes, souvent désespérées, un peu tristes, mais... Alors, je vais faire le refrain. Marie, Marie-Dominique, que foutais-tu à Saïgon? Ça ne pouvait rien faire de bon, Marie-Dominique. Je n'étais qu'un cabot clairon, mais je me rappelle ton nom, Marie-Dominique. Est-ce l'écho de tes prénoms ou le triste appel du clairon, Marie-Dominique? Ben là, c'est plutôt le soldat qui se fait avoir par la femme. Mais alors, sinon, il y a Simone. Simone aimait les matelots aiment qui les aiment, et moi, je peux penser de même, car c'est là mon moindre défaut. Mais si la mer plaît aux Bretons, c'est qu'elle les tient en son giron. Et tant pis pour qui mal y pense, ça n'a pas vraiment d'importance. Ça, c'est les refrains, ça, de McCorland. Mais il y en a une qui a été première rue de parade en 1951, je crois. Là, c'est « Un rat est venu dans ma chambre, il a rongé la souricière, il a arrêté la pendule et renversé le pot à bière. Je l'ai pris dans mes bras tremblants, il était chaud comme un enfant. Je l'ai bercé bien tendrement et je lui chantais doucement. Dors mon rat, mon flic, dors mon vieux Bobby, ne siffle pas sur les quais endormis, quand je tiendrai la main de mon chéri. » Tabadadam, pam, pam, pam.
Est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu as envie de mettre la lumière dans le cadre de cette petite rencontre ou
Ouais, ce que j'ai envie de dire, c'est que je ne savais pas où ça allait me mener quand j'ai fait le conservatoire, cette vie d'artiste dans laquelle j'entrais. J'avais envie de m'accomplir par le théâtre, ça c'était évident. Je le pensais que ce serait plus à travers des rôles que j'allais faire, endosser.
Et puis quand je fais le bilan maintenant, ouais, parce que bon, voilà, 40 ans de carrière, je peux commencer à faire le bilan, je me rends compte ce qui m'a surtout construit et enrichi, c'est toutes ces rencontres de gens qui n'ont l'air de rien, comme je disais tout à l'heure, les femmes et les hommes qui n'ont l'air de rien. Et c'est les rencontres humaines, en fait, quoi. C'est vraiment... c'est ça, quoi. Autant les personnes qu'on dit en situation de handicap que les gens qu'on dit en détresse sociale. Tout le monde est riche de lui-même. Et ça, c'est... Ça, vraiment, ça m'a nourrie considérablement tout au long de ma vie d'artiste et ma vie de femme, quoi. Vraiment, ouais. Donc... j'ai pas eu une carrière extraordinaire au niveau national, des grands rôles, mais j'ai été riche de toutes ces rencontres et ça, bah, c'est formidable. Je suis toute émue de dire ça.
Ah ouais, c'est beau comme, ouais. Comme conclusion. Ouais, c'est, merci.
C'était Au détour d'une rencontre, réalisée par Alexia Guignard, une émission qui vous propose de partir à la rencontre d'une personne, d'un projet, d'un métier, d'un engagement, d'une réalité de vie. Une émission qui parle des autres, de soi, qui questionne ce que nous sommes, ce qui est, ce que nous faisons, dans quel but.
Courant d'air, au creux, sauf côte, au chien d'hiver. Je vais, je viens, manger, dormir, siffler matin. Rater, partir, je vais, je viens, je danse. Aux choses en vain, mais m'avance. J'en viens manger, dormir, souffler matin, rater, partir ma route, la mer.